Savoir déployer un A/B test est une compétence de plus en plus recherchée dans le monde du numérique. Je vous raconte mes premiers A/B tests et vous apporte mes conseils sur le sujet tout de suite dans Parlons Design. La cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna et aujourd'hui on se retrouve dans Parlons Design pour discuter du sujet des A/B tests, pour que je vous raconte un petit peu mon expérience et vous donne quelques premiers conseils sur le sujet. Alors, un A/B test, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de tester en production plusieurs variantes d'un même flow utilisateur pour faire un choix basé sur la data. C'est une méthode qui est très utilisée par les startups, qui sont en recherche vraiment d'optimisation de leur flow utilisateur. Notamment, c'est très utilisé par Netflix et ils ont écrit beaucoup d'articles sur le sujet, autant des articles techniques sur la mise en place que des articles sur la manière dont on peut concevoir ces A/B tests. Mais pour le cas de Netflix, ils vont l'utiliser de plein de manières différentes, mais un cas d'usage assez caractéristique, ça va être pour tester la conversion d'un parcours d'abonnement. Il y a le parcours d'abonnement classique, on va designer d'autres variantes, on va les mettre en production et certains utilisateurs vont voir tel parcours, d'autres utilisateurs vont voir un autre parcours. On va suivre les statistiques pour derrière voir, ok, ce design-là fonctionne mieux, donc c'est celui qu'on va garder. Les A/B tests, c'est vraiment une solution pour optimiser des parcours de manière très fine. Là où des tests utilisateurs vont nous permettre d'itérer sur un même parcours, de trouver là où il y a des problèmes pour l'utilisateur et d'affiner tout ça, les A/B tests, ça va vraiment être, on va faire des petites modifications ou des flows complètement différents, mais voilà, on va faire deux alternatives et puis on va les donner au grand public et on va voir s'il y a une différence significative entre les deux. Donc récemment, j'ai eu l'occasion de tester cette méthode des A/B tests sur une de mes applications qui s'appelle Sésame. C'est un gestionnaire de mots de passe disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, qui a un certain nombre d'utilisateurs. Et je cherche à optimiser plusieurs parcours au sein de l'application. Dans un premier temps, le premier A/B test que j'ai réalisé, c'était pour intégrer une nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité, elle permet de gérer plusieurs types de comptes. Historiquement, dans l'application, on peut enregistrer ses comptes web avec un identifiant, un mot de passe, de manière très classique. Je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'intégrer la possibilité de gérer des codes Wi-Fi, des cartes bancaires, des choses comme ça au sein de l'application. Il faut savoir que Sésame est une application, un gestionnaire de mot de passe qui a pour but d'être hyper simple pour être accessible même aux personnes qui sont vraiment pas dans la tech. Donc ce genre de fonctionnalité, c'est de la complexité en plus. Et je me suis dit, peut-être que finalement je vais perdre des utilisateurs à cause de ça, parce que oui c'est un plus, oui on peut faire plus, mais finalement est-ce que ça répond vraiment aux besoins de mes utilisateurs? Je ne sais pas vraiment. Donc j'ai designé deux variantes, la variante classique sans cette fonctionnalité, et puis la nouvelle variante avec cette nouvelle fonctionnalité qui permet de gérer plusieurs types de comptes dans l'application Sésame. Donc l'hypothèse derrière ça, c'était est-ce qu'en complexifiant l'app avec cette nouvelle fonctionnalité, on va perdre des utilisateurs? Donc j'ai designé puis développé ces deux versions et 50% des utilisateurs qui ont téléchargé la nouvelle application ont la variante A et 50% ont la variante B. Donc en fait, chaque personne qui télécharge l'application n'aura pas tout à fait la même application. Et comme ça, ça va me permettre de tester vraiment en conditions réelles ces deux possibilités. Derrière, bien sûr, il y a un suivi des statistiques avec certains trackers spécifiques qui me permettent de voir si ça impacte ou pas. Et en attendant un certain temps pour avoir un nombre d'utilisateurs qui sont passés par ces deux flows-là assez important, parce que sinon, bien évidemment, on va pas pouvoir avoir des vraies statistiques fiables. Là-dessus, j'ai attendu à peu près d'avoir 2000 utilisateurs qui étaient passés par ces flows-là, donc ça fait 1000 utilisateurs sur la première variante et 1000 utilisateurs sur la deuxième, pour avoir des statistiques fiables. La conclusion en les regardant, c'est que finalement, ça semble influer que très 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 faiblement l'usage de l'application. Les metrics qui avaient été sélectionnées, qui ont été comparées, ont très peu varié, et très probablement que cette petite variation qui était de l'ordre de 1% était plus due au hasard parce qu'on était sur un échantillon réduit. Mais globalement, la conclusion était que avec cette feature ou sans cette feature, la différence était clairement pas significative. Donc finalement, une bonne chose, ça répondait à mon hypothèse initiale. En complexifiant l'application avec cette fonctionnalité, bah finalement, je ne vais pas perdre des utilisateurs parce qu'elle est intégrée de manière à ce que ça ne complexifie pas tant que ça, voire ça plaît à certains. Donc grâce à la donnée, grâce aux statistiques, on a pu avoir un apprentissage en termes de design. Derrière, quelques mois plus tard, j'ai retesté, réutilisé la méthode des A/B tests pour tester un nouveau flow utilisateur qui était le flow de onboarding. Donc juste après que les gens aient téléchargé l'application, quand ils vont devoir ouvrir l'application pour la première fois, la découvrir, s'inscrire, essayer d'améliorer le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui complètent ce flow et deviennent vraiment utilisateurs de l'application. Alors, sur le premier test dont je vous ai parlé, on était vraiment sur un A/B test avec deux versions. Sur cette itération sur l'onboarding, j'ai testé quatre variantes. On pourrait dire que c'est un ABCD test, mais finalement, il y a eu quatre variantes avec deux écrans d'accueil différents, mixé avec deux écrans de création de compte différents. Donc dans ce flow de onboarding, bien évidemment, il y a plusieurs écrans. Il y en a deux que j'ai fait évoluer, ou en tout cas j'ai testé de nouvelles hypothèses. Donc ça m'a permis d'avoir quatre variantes de flow utilisateur. Là où des tests utilisateurs classiques auraient pu être intéressants, ils auraient manqué de précision. C'est des flows qui sont relativement peu complexes dans la manière de les naviguer, donc les potentiels problèmes vraiment d'usabilité sont relativement réduits. Et du coup, là, on est vraiment sur de la recherche d'une mesure de conversion à grande échelle. Donc, les tests utilisateurs n'auraient pas forcément marché dans ce cas-là. On va plutôt chercher à optimiser sur un gros nombre d'utilisateurs et du coup, en testant en conditions réelles. Donc, avec ces quatre versions de flow utilisateur pour l'onboarding, elles ont été bien sûr développées. Et encore une fois, 25% des utilisateurs ont eu la première version, 25% la deuxième version, 25% la troisième version et 24% la quatrième version, de manière totalement aléatoire. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'une nouvelle personne téléchargeait l'application, elle tombait sur l'une de ces versions sans elle savoir que c'était une version de test. Et derrière, il y a bien sûr eu un suivi des statistiques, ce qui a été mesuré, notamment c'était la conversion, qui m'a permis de voir, quelle variante convertit le mieux les clients en vrais utilisateurs. Et ce qui s'est avéré, pareil, après un certain temps, et là il a fallu à peu près également, on est aujourd'hui, là où je vous parle, là environ 600 utilisateurs qui sont passés sur chaque variante, donc il va falloir attendre encore un petit peu plus pour avoir les résultats définitifs et avec des statistiques solides, mais il semblerait que le nouvel onboarding avec l'écran de création de compte classique fonctionne mieux, plus 10% de conversion environ par rapport au onboarding classique. Pareil, c'est un apprentissage que la donnée affirme, que les utilisateurs démontrent d'eux-mêmes, parce que on voit que la conversion augmente sur ce flow utilisateur-là précis. Voilà, encore une fois, un apprentissage concret grâce à la data, grâce à ces A/B tests. Donc, j'espère que ça vous a donné envie, que ça vous a motivé à mettre en place des A/B tests. Je vous ai préparé quelques tips and tricks, mais bien sûr, il y aura un épisode qui arrivera bientôt pour vous donner un peu plus de conseils là-dessus. La première chose importante pour faire des A/B tests, c'est qu'il y a besoin d'une quantité d'utilisateurs importante. S'il n'y a pas déjà une application en production avec des utilisateurs, ça va être impossible de faire des A/B tests. Parce que si on n'a pas un gros panel d'utilisateurs, la qualité des statistiques sera jamais bonne, les résultats sont jamais significatifs de manière mathématique, et du coup on pourra jamais tirer de conclusion de ces A/B tests. C'est là où forcément des startups comme Netflix ou Uber ont vachement de facilité à faire ces A/B tests, parce qu'ils ont un panel d'utilisateurs tellement important qu'en quelques heures, voire allez, quelques semaines, ils ont des résultats hyper significatifs. Donc ça c'est vraiment le prérequis pour faire des A/B tests. Également, quand on va faire des A/B tests, c'est toujours important de garder une version de référence, la version originale du flow utilisateur, plus des variantes. La version de référence va vraiment être la base, et on va analyser les variantes par rapport à cette référence. Est-ce qu'il y en a qui performent mieux, qui performent moins bien, etc. Je vous recommande également de commencer avec les A/B tests classiques à deux possibilités, comme le premier dont je vous ai parlé, et ensuite essayer d'aller plus loin si besoin avec plusieurs variantes. Mais dans un premier temps, c'est bien de commencer juste avec deux variantes pour commencer à se former au sujet. Un autre petit point très important que j'avais pas forcément très bien géré dans le premier cas et que j'ai mieux géré dans le second cas, c'est que c'est super important de définir dès le début les métriques à suivre, les métriques qui vont pouvoir caractériser le succès ou non d'un A/B test. Dans le cas du onboarding, c'était très clairement la conversion qu'on voulait regarder. Donc c'est la stat que j'ai traquée dès le début et que je regarde encore et toujours. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on cherche à améliorer avec ces nouvelles variantes. Sinon, on ne pourra pas tirer de conclusion propre et ce sera une conclusion a posteriori qui pourrait être biaisée potentiellement par nos envies. Et enfin, le dernier petit conseil que je vais vous proposer dans ce podcast, c'est de se pencher un petit peu sur les mathématiques et vraiment sur comment faire une analyse mathématique des résultats, qu'est-ce qui est un résultat significatif, comment fonctionnent les intervalles de confiance, etc, etc. Là, c'est vraiment de la statistique, hein, et si on comprend pas bien les statistiques, on peut tirer des conclusions qui sont fausses. Et donc, c'est hyper important de se pencher sur cet aspect-là. Il y a plein d'outils en ligne qui expliquent ça, de très bons articles. J'essaierai d'ailleurs de vous en mettre en description. Donc, quand on fait des A/B tests, c'est vraiment important de prendre le temps de se former à quelles sont les bonnes pratiques, comment lire surtout ces A/B tests, parce que sinon, bah, on perd tout l'intérêt, forcément, si on lit des conclusions biaisées. Un épisode va arriver très bientôt, vraiment, pour vous parler plus en détail de cette méthode d'A/B test. Là, c'était un retour d'expérience. Mais en attendant, j'essaierai de vous mettre un petit article en description de cet épisode. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. C'est une méthode vraiment passionnante et hyper intéressante en termes de résultats. Ça peut vraiment permettre d'optimiser des parcours à grande échelle. Donc, je vous invite à découvrir ça si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, si ce podcast vous a intéressé, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à laisser une petite note sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée, un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours et ça permet également de mieux référencer le podcast. Donc voilà, c'est vraiment un bon support si vous aimez Parlons Design. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Design. 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 Design.